cours de philosophie première par le permis Dominique Philippe, le 22 mai 2002 à Saint-Gédard.
Continuons cette recherche de la personne. Nous avions essayé de voir la différence voulue par Dieu, l'homme et la femme, complémentaires pour la finalité de la génération et de l'éducation, pour la continuité de la nature humaine. C'est toujours le dialogue nature et personne. Et au point de vue nature, c'est évident que Dieu a voulu, du moins je ne parle pas en philosophie, je parle donc du fait, l'homme et la femme sont essentiels à la procréation. Et actuellement, on voudrait prouver qu'il puisse y avoir une procréation indépendamment du concours de l'un et de l'autre. Il faut voir ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui dans cette lumière. C'est la nature humaine, elle est double, en quelque sorte masculine, féminine. Et ce qu'on voit chez l'animal, il y a quelque chose de très important ça, à voir. Le concept de nature vivante. Alors, entre parenthèses, le théologien réfléchit sur la question de nos frères aînés, les anges. Et nous sommes les cadets. Hein. Et dans le gouvernement divin, les anges sont premiers. Et chez les anges, le point de vue, la nature angélique, joue très différemment, elle est tout de suite transformée par la personne. Chaque ange est différent dans sa nature. Il y a la nature angélique générique, mais en réalité, chaque ange est une personne. Et il n'y a pas cette réalité de la procréation. C'est quand même très étonnant. Alors, en théologie, je peux dire ça. Il y a quand même cette chose très curieuse, en théologie, que Dieu ne s'est pas contenté de créer des anges. Alors que d'une certaine manière, ils sont beaucoup plus proches de Dieu que l'homme. Ils sont spirituels. Et Dieu a voulu, dans sa bonté et sa miséricorde, qu'il y ait une créature beaucoup plus faible, une créature où le spirituel et le matériel soient unis. Pourquoi ? Pour qu'il puisse communiquer le point de vue de la fécondité. Pour qu'il puisse communiquer le phénomène de l'amitié. Entre les anges, il n'y a pas d'amitié naturelle, angélique. L'amitié est uniquement surnaturelle. Et Dieu a voulu aller plus loin dans la création pour pouvoir communiquer à la créature quelque chose qui est unique en Dieu, le point de vue de la création de l'âme. Il a voulu associer l'homme à cela. ce qui est très extraordinaire et ce qui est merveilleux au point de vue miséricorde de Dieu pour aller le plus loin possible dans la création, associer l'homme à la création. C'est faux de dire que l'homme est associé à la création. Dieu ne peut associer personne directement pour la création, mais matériellement, oui, de l'ordre de la disposition. Et c'est ce que Dieu a fait en créant l'homme et la femme. C'est quelque chose de très extraordinaire au point de vue de la miséricorde du Créateur, d'aller le plus loin possible dans la communication de ce qu'il est. Dieu ne peut pas se communiquer comme Dieu, mais il peut faire un être vivant lié à la matière, et par le fait même qu'il soit lié d'une façon dispositive, pas directement, à la création de l'âme. Et ceci nous montre ce qu'il y a de si étonnant dans la procréation. Et on est au niveau de la nature et de la nature du vivant. Et je crois que on doit comprendre cela au point de vue philosophique et théologique. Le philosophe ne peut pas parler des anges, mais le théologien en parle. Les philosophes ont toujours senti qu'il y avait quelque chose entre deux, et ils parlent des êtres intermédiaires, vous voyez, dans le platonisme. Donc ils ont senti, c'est très curieux, pour qu'il y ait comme une espèce d'harmonie plus parfaite entre le Créateur, Dieu, et la créature, il y a les anges, les êtres, les substances séparées. Mais le philosophe peut uniquement en parler comme d'une nostalgie. Et la théologie là, le théologien, le philosophe doit au moins regarder ce que le théologien dit pour mieux saisir cette chose inouïe du Créateur qui veut que l'homme soit associé à la création de l'âme. Et c'est un très gros problème aujourd'hui chez les chrétiens philosophes ou chez les philosophes chrétiens. Quand la création de l'âme a-t-elle lieu? Est-ce que la création de l'âme a lieu tout de suite ou la création de l'âme a lieu après un certain temps de la formation de l'embryon? Et ceci reste un problème auquel il n'y a pas de solution. Je ne peux pas le savoir. Philosophiquement, je ne peux pas savoir quand l'âme a été créée. Je peux mettre des raisons de convenance, dire que l'âme a dû être créée tout de suite, l'âme a dû être créée après. Vous comprenez que ce n'est pas un problème scientifique. L'âme n'est pas un problème scientifique. Il faut bien se rappeler ça, de science positive. L'âme est un problème de sagesse, l'existence de l'âme. uniquement dans un regard de sagesse que je peux découvrir l'âme. Philosophiquement, je peux découvrir l'âme avant la découverte de Dieu. Je peux dire qu'il y a quelque chose dans l'homme qu'on est obligé de poser simplement en analysant l'homme, analysant toutes les activités de l'homme. Et je crois que ça devient le problème numéro un au point de vue philosophique aujourd'hui. Parce qu'il y a de fait une opposition très nette pour dire que l'âme n'existe pas, philosophiquement. L'âme n'est pas. Or, on doit maintenir que l'âme existe et qu'on peut prouver son existence au point de vue philosophique. Il faut que tous nous arrivions à prouver philosophiquement que l'âme existe. Ça, je crois que c'est le devoir numéro un aujourd'hui. Parce que c'est la grande attaque. Le positivisme, déjà qui existait depuis Auguste Comte, s'empare de tout. Et au nom d'une science positiviste, évidemment, on ne peut pas parler de l'âme. On n'a jamais vu l'âme, on n'a jamais constaté l'âme. On peut analyser le corps humain, du vivant, si on l'analyse scientifiquement à partir de l'expérience, et d'une expérience très poussée, on ne découvrira pas l'âme. Ce n'est que par la philosophie qu'on peut découvrir l'âme, et qu'on la pose alors comme nécessairement existant. Et si on supprime la philosophie, c'est ce qu'on a tendance à faire, on ne pourra plus prouver l'existence de l'âme. Alors on dira, l'âme, ça fait partie des croyants. Mais ça ne fait pas partie de la philosophie humaine. C'est très grave. Ben, on arrive à ce moment-là. Jusque maintenant, au fond, on a toujours accepté que l'âme, au plan philosophique, pouvait être prouvée, pouvait être manifestée, son existence. Ça devient le problème numéro un. Ça, je crois qu'il faut être très attentif à ça. On fait de la philosophie aujourd'hui pour montrer que l'âme existe. Et ensuite, une fois qu'on a montré que l'âme existe, on montre que Dieu existe. Et le positivisme, qui ne veut accepter que les sciences expérimentales, rejette l'existence de l'âme. Donc, on voit bien que le premier problème au point de vue de la personne, c'est de voir, puisque la nature est masculine-féminine, en vue de la procréation, quelles sont les répercussions de cela au point de vue personne. La personne dépasse la nature, puisqu'elle se prend du côté de la finalité. On a une finalité qui est supranaturelle. L'esprit. La finalité qui vient de l'esprit. C'est une finalité personnelle. Et la personne se prend à partir de l'esprit. Et à partir de l'esprit, nous avons vu, nous avons essayé de comprendre comment la femme, au niveau disposition, a ordinairement un sens beaucoup plus développé. La parole qu'Aristote dit, la femme se prend du côté, en premier lieu, du côté de la matière, ex parte materiae. Et l'homme aussi se prend du côté de la matière, et aussi encore. Mais ce point de vue-là est plus développé du côté féminin. Elle est celle qui crée le milieu premier. Le premier milieu pour l'homme, c'est la mère, le sein maternel. Et le premier milieu pour l'homme joue énormément, et joue d'autant plus que dans la philosophie moderne, on ne voit plus la finalité, mais tout est remplacé par le point de vue de la disposition qui se prend du côté de la matière. Alors, du côté de la matière, il est sûr que la mère est première. C'est elle qui donne le sens de la disposition d'une façon très nette. L'homme est plus rationnel, plus point de vue de la détermination. Or, la détermination, elle a cet inconvénient que l'homme peut rester fixé à cette détermination première, quiditative, logique, ce qui n'est pas juste. La vraie détermination, c'est de nous conduire à la finalité et de nous permettre de découvrir la fin. Alors, la femme qui est première du côté de la disposition, on la retrouve du côté de la finalité. Il y a un lien. La disposition et la fin. Mais du côté de la fin, il y a donc deux conduites vers la fin, par le point de vue de la matière, par le point de vue de la forme. Et on voit bien qu'il y a comme deux, une double matière, double manière de saisir la finalité. Une manière plus féminine, une manière plus masculine. C'est assez étonnant du reste là. De bien saisir ça. Mais la personne de l'homme et la personne de la femme, toutes les deux doivent s'achever dans le sens de la finalité qui dépasse la nature. Au point de vue de la finalité, elle est personnelle, tant du côté de la femme que du côté de l'homme. Du côté de la femme, elle s'atteint plus facilement par la disposition. Du côté de l'homme, elle s'atteint au-delà de la logique. Et l'homme doit atteindre sa finalité d'une manière plus rigoureuse, parce que c'est ordinairement, la plupart du temps, ut in pluribus, comme dirait Aristote, la plupart du temps. Il atteint la finalité par le point de vue de la forme. Et donc il l'atteint d'une façon plus précise, plus nette. La femme l'atteint du côté ex parte materiae, du côté de la matière, du côté de la disposition. Alors elle l'atteint de façon plus enveloppante. Il y a deux manières de saisir la finalité, d'aboutir à la finalité. L'une plus féminine par le point de vue de l'enveloppement du milieu qui finalise. Mais vous voyez, le danger, c'est que la fin est presque toujours saisie d'une façon immanente. Et l'homme l'atteint par le point de vue de la forme d'une façon plus précise et saisit la fin dans son extériorité, dans son dépassement. Vous voyez ? La finalité se saisit doublement, d'une façon immanente, d'une façon transcendante. Et c'est vrai, c'est les deux manières dont Aristote saisit la finalité. Entelekeia, energeia. Il y a deux mots grecs. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a un seul mot latin. Or, le latin est après le grec. Et on a surtout regardé le point de vue latin. Aujourd'hui, les sorbonnards savent encore à peu près le latin et le grec rare. Sauf si on regarde alors du côté proprement des Grecs. Et au point de vue religieux, c'est les orthodoxes qui ont un sens beaucoup plus net de la finalité que les latins. Et c'est très simple, le latin n'a qu'un mot, le grec en a deux. Et c'est vrai qu'il y a deux voies d'accès. Energeia et entelekeia. La fin, c'est ce vers quoi je tends. Et elle m'attire toujours. Je ne peux pas la posséder. Dès que je la possède, c'est plus la fin. Ça devient quelque chose que je possède, l'immanence. Il faut bien saisir ça. Et Aristote, pour qu'on le saisisse mieux, a inventé un nouveau mot qui n'existait pas avant. Vous voyez ? Il a été super grec pour mettre deux mots. La fin que je possède en moi, la fin qui m'attire. Alors, la fin que je possède en moi, très facilement n'est plus fin parce que je la possède. L'instinct de possession étant quelque chose de beaucoup plus fort qui risque d'empêcher de saisir la transcendance de la fin. Et je ne saisis que ce qui est immanent dans la fin. C'est très important de voir les deux. Alors, je retrouve, je crois, les deux dans la finalité. Au niveau homme, au niveau femme. On retrouve un aspect féminin, un aspect masculin. Il ne faut pas aller trop vite, hein, je mets ça entre guillemets. Parce que en réalité, il y a deux moments dans la fin. La fin qui m'attire et qui elle m'attire toujours. La fin, je ne la possède jamais totalement. Elle m'attire. Elle met en moi le désir. Et la fin possédée en moi, c'est ce qui m'achève, ce qui me perfectionne. Alors je pourrais dire, voyez, que l'homme atteint plus facilement la fin transcendante et la femme atteint plus facilement la fin immanente. Et qu'il y a une complémentarité des deux manières de saisir la finalité. Évidemment, saisir la transcendance de la finalité demeure toujours objectivement ce qui est premier. Et subjectivement, c'est le point de vue de la possession de la femme. C'est très curieux et c'est très intéressant à bien noter cela. Parce que ça peut faire des luttes de ménage. Vous voyez ? Parce que la femme regarde plus la femme possédée, immanente, et l'homme regarde plus la femme transcendante, celle qui m'attire, toujours. Celle que je ne possède jamais totalement. Parce que, au point de vue de l'être, l'homme n'est pas premier. Et donc, il demeure toujours comme un second du point de vue de la finalité. Tandis que la fin immanente, il la garde. Je m'arrêterai là pour la question de la personnalité du père et de la mère, de l'homme et de la femme. Je regarde maintenant le point de vue de la personne dans ce qu'elle a de plus achevé, de plus parfait. Aussi bien l'homme que la femme. C'est la perfection la plus parfaite. C'est celle du contemplatif. Du contemplatif, comprenons bien. Ce qui n'empêche absolument pas, au contraire, le point de vue de la miséricorde. Le vrai contemplatif, même au plan purement philosophique, n'est pas un primat de la solitude. Non. La solitude est une condition sine qua non à atteindre la fin parfaitement. Mais elle n'est pas exclue, elle n'est pas quelque chose qui exclut la miséricorde, le regard vers les autres, l'amitié. Ça aussi, c'est très important et bien noté. La solitude qui se sclérose un peu, vous voyez, je parle de la solitude qui se sclérose, c'est-à-dire, vous voyez, une clôture qui fait que le sage doit être nécessairement un ermite claustré. Le point de vue, la solitude qui fait que on est complètement séparé et on ne voit personne. Ça peut se comprendre, ça a toujours vécu, il y a toujours eu des réalisations, ça peut se comprendre, étant donné la fragilité de la personne humaine, contemplative. On doit s'armer. Mais, alors on porte une carapace, une petite boutique dans laquelle on est complètement fermé. On isole la personne et on la met en l'empêchant de sortir, la clôture. Et la clôture peut aller très loin. Des gens emmurés vivants, ça existe. Pas seulement au point de vue chrétien, mais ça existe au point de vue humain, étant donné l'exigence de la contemplation, Plotin serait un cas extraordinaire pour cela. Historiquement, on a rencontré Plotin pris dans une espèce de contemplation. Il était complètement isolé. Je vais prendre le cas de Plotin parce que c'est pas un chrétien, c'est un philosophe. Et je crois que le cas de Plotin, à ce point de vue-là, est très remarquable. Pas imitable, mais très remarquable. Nous avons plus au point de vue chrétien. Mais ça, je n'en parle pas ici. Je prends ce cas où le philosophe atteint la sagesse. Toute la philosophie est ordonnée à la découverte de Dieu, du Créateur. Toute la philosophie me permet de découvrir comment mon intelligence humaine peut et doit être en relation avec le Créateur. Et autant qu'elle peut l'être. Donc, contemplation philosophique de Dieu. Et par le fait même, disposer toute la vie humaine, dans cette perspective. Jusqu'où le philosophe qui veut vivre de la contemplation peut-il s'abstraire de tout ce qui est la vie proprement humaine, s'abstraire de la morale, vous voyez, de l'amour d'amitié. Peut-on arriver par soi-même à cette pure contemplation? Je crois, alors là, je dis pas plus, hein, je crois, parce que c'est très difficile. Un Plotin est arrivé à cette contemplation. Et là, Plotin, c'est purement philosophique. Et on sait quelque chose de Plotin grâce à son disciple. C'est pas lui qui a écrit. Mais c'est un disciple de Plotin qui s'est mis à écrire les entretiens de Plotin. Et c'est pour ça que c'est des entretiens. Et c'est très beau. C'est sûrement quelque chose de très grand. Il faut avoir lu Plotin durant ses études philosophiques. Je crois que c'est indispensable. Comme il faut avoir lu Aristote, comme il faut avoir lu Platon, il faut avoir lu Plotin. Parce que c'est quelqu'un qui a un sens très grand de ce qu'est la contemplation. C'est le contemplatif, philosophe. Alors, il faut comprendre que la personne humaine, alors, elle est structurée par la sagesse. Et c'est vraiment la sagesse qui permet cette contemplation. Contemplation de Dieu, cette attraction de Dieu. Et dans la lumière de cette attraction, de cette contemplation, il y a le regard sur l'homme, il y a le regard sur toutes les réalités humaines qui sont taillées en fonction même de cette contemplation. On a un type très particulier de la personne humaine. Vous voyez, qui rejoint bien, d'une certaine manière, l'homme et la femme, mais qui demeure dans une solitude qui exige la contemplation elle-même. La contemplation prend tout. Parce que c'est elle qui permet d'avoir une finalité la plus parfaite. Et elle met l'homme dans une communion avec Dieu créateur, dans une communion qui met en dehors, au-delà de tout ce qui est proprement humain, et qui met l'homme même au-delà de l'amitié. L'amitié peut exister et peut-être aider énormément à cette voie contemplative, mais elle est dépassée par la contemplation elle-même, qui est la solitude avec Dieu, qui est le regard philosophique sur Dieu. Et ce regard philosophique sur Dieu prend tout. On est saisi d'une façon transcendante par la présence de Dieu. Et je dis bien présence, l'omniprésence. Dieu créateur me voit. Et Dieu créateur me voit par le fait même ce qu'il y a de plus merveilleux et de plus éminent en moi, c'est de recevoir ce regard de Dieu, de recevoir cet amour de Dieu, d'être celui qui contemple l'acte créateur et qui vit de cet acte créateur, puisque cet acte créateur, c'est le regard du Dieu éternel sur moi. Et ce regard de Dieu éternel sur moi, il est actuel. Et il prend tout mon être. Et donc, je suis en contemplation vis-à-vis du Dieu un. Du Dieu créateur. Et tout mon être, par l'intelligence et l'amour, est tendu vers lui. Je suis relatif à lui et totalement relatif à lui. Je veux que tout mon être soit relatif. Je ne touche l'existence de Dieu que par la fine pointe de mon intelligence. Et cette fine pointe de l'intelligence, elle est soutenue par l'amour, puisque je contemple quelqu'un que je ne vois pas, mais que je sais présent, et que je me laisse imprégner de son regard, de son action sur moi. Tout ce qui en moi est vivant, spirituellement vivant, vient de lui. Et je me laisse imprégner par lui. Et je vis de ce regard de Dieu sur moi. Vous voyez, on peut prendre là la parole de ce paysan au curé d'Ars. Je la vise, ma vise. Je crois que c'est la pureté même de la contemplation dans ce qu'elle a de plus pur. Je la vise, il m'a vise. Il m'a vise, je la vise. C'est plus juste de dire ça au point de vue philosophique. Dieu me regarde. Dieu crée actuellement mon âme. Il crée cette âme qui est faite pour lui. Il la crée dans son attraction. Et je contemple Dieu à travers cette attraction, à travers cette création. Et je reste suspendu à son regard d'amour. Il y a un type de personne humaine spéciale à ce moment-là, qui est très rare, mais qui peut exister, qui est très rare. Je vous dis, on a cet exemple très étonnant de Plotin, où on sait que cela a existé, il y a eu un témoin. Et il était suspendu à ce regard de Dieu sur lui. C'était ce regard de Dieu sur lui qui était toute sa vie.